RMC.
Oh, c'est gonflé. Oh, c'est gonflé. Oh,
Basket Time.
On fout ce qui arrive en deuxième mi-temps. Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après on perd, c'est pas grave, c'est la vie.
C'est fini. Champion d'Europe de basket, messieurs dames. Jacques Monclar est aux anges. On est tous aux anges.
Pierre Dorian.
Basket Time sur RMC, c'est votre rendez-vous basket du mardi en podcast sur rmc.fr. La Dream Team du jour sera représenté par Fred Weiss, Stephen Brun et Sacha Alix. Salut les gars.
Salut mon petit Pierrot.
Est-ce que ça ferait une bonne équipe de 3-3 ça?
Sans Sacha, oui.
Sans Sacha, oui, d'accord.
Parce que c'est toujours important d'avoir un mec qui fait la remise en jeu.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Voilà. Encore faut-il ne pas perdre le ballon sur la mise en jeu.
Oui, encore fait. Mais bon, après du ballon l'air à Fred, démarquage tranquille, voilà.
Alors vous avez entendu le générique, c'est un spécial équipe de France aujourd'hui. Et d'ailleurs, on réécoutera l'une de ses voix dans cette émission. Je ne vous en dis pas plus. Voilà. On réentendra.
Teasing.
Oui, un peu plus tard dans cette
later,
émission.
Later on.
Exactement. Alors, pourquoi spécial équipe de France? Parce qu'il y a beaucoup d'actu. Êtes-vous sous le choc de la décision de Wembanyama? Il ne fera pas la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Et puis, on revient sur la médaille de bronze à l'Euro féminin. Est-ce un échec selon vous? C'est un échec qui a du mal à être assumé, en tout cas par la Fédération Française de Basket. Dans la partie historique, vous allez me dire quelle est la plus belle performance individuelle à la Coupe du Monde de basket, dans l'histoire de la Coupe du Monde. Vous avez préparé?
Oui.
Oui, tout à fait.
La Coupe du Monde existe depuis 1950.
Oui.
Elle a lieu à peu près tous les 3 ans.
C'est pas sûr. Même moi, je suis pas retourné aussi. Tu vas pas
regarder pour voir.
Tu vas pas nous faire un quiz historique?
Non, mais je vous avoue que j'avais aucune idée de qui étaient les joueurs qui avaient marqué cette compétition, qui n'est pas la plus prestigieuse.
Ça dépend pour quelle nation.
La France a plus brillé au championnat d'Europe qu'en Coupe du Monde.
Mais t'as dit que c'était la dernière de Basket Time de la saison?
C'est la dernière de la saison de Basket Time. Il faut pas le dire parce qu'il faut que les gens reviennent.
Ah oui, donc les gens ils vont se connecter tous les mercredis.
Il va remettre les anciens épisodes tout en haut pour faire genre.
Peut-être qu'on peut imaginer quelque chose pour alimenter encore l'actu de Basket Time pendant l'été.
C'est-à-dire, on enregistre nos appels
téléphoniques. On enregistre, exactement. Qu'est-ce que tu penses du transfert, machin? Ça te dit, Fred?
Moi, ça me dit.
Bon, vous êtes prêt, on est parti. Basket Time, c'est tous les mardis en podcast sur rmc.fr. Et cette semaine, c'est l'équipe de France. Alors, donc, l'enthousiasme autour de Wembanyama est retombé d'un coup.
Bah, c'est vrai que sa volonté à la base, c'était de faire ce mondial.
Et Wemby a annoncé à l'équipe qu'il ne fera pas la Coupe du Monde avec les Bleus cet été.
Moi, je suis déçu. Je suis déçu.
Un choix difficile, mais irrévocable, je cite, une décision qu'il explique avoir prise lui-même après avoir consulté son entourage le plus proche et le staff médical qui le suit au quotidien. La raison de ce rétropédalage, en quelque sorte, la protection et la construction de son corps qui a été soumis à rude épreuve lors de la saison avec Boulogne-Levallois.
Il y a une déception parce que la Coupe du Monde, la France ne l'a jamais remportée, donc c'est quand même un objectif important.
Alors, on va parler donc de Wembanyama, Victor Wembanyama, donc qui a décidé de ne pas faire la Coupe du Monde avec l'équipe de France cet été. Êtes-vous choqué par la décision de Victor Wembanyama? C'est vrai qu'on ne s'y attendait pas, puisqu'il a toujours dit que l'équipe de France était très importante. Il a même dit qu'il y serait à la Coupe du Monde il y a quelques semaines de cela. Sacha, cela dit, il a donné ses explications à l'équipe. Pourquoi ne vient-il pas?
Dans l'équipe, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a le côté bien démarrer la saison avec les Spurs, de préserver son corps et que potentiellement, c'est une compétition qui peut, entre guillemets, contrecarrer ça. Et le fait aussi qu'ils ont insisté sur la Summer League auquel il devrait participer à minima sur un match et que pour les Spurs, c'était important pour lui. Donc, je pense que pour réussir ses débuts en NBA, c'est clairement pour ça qu'il y a une croix qui est tirée sur la Coupe du Monde. Après, je pense que c'est logique dans le cadre d'une arrivée en NBA comme celle de Victor Wembanyama. Et si on se rappelle, il y a quelques mois, je pense que c'était prévisible finalement qu'il participe pas à cette Coupe du Monde.
Soit, tu peux dire ça comme ça, mais lui, jusqu'à présent, a toujours dit le contraire.
Je pense qu'on est peut-être sur la première erreur de communication de Victor Wembanyama depuis qu'il est dans l'actu ces derniers mois. C'est-à-dire qu'il a excité la France, mais aussi le monde entier, par ses propos sur justement l'équipe nationale, comme quoi il voulait instaurer un règne du basket français sur le basket mondial. Il voulait que Team USA ait peur de l'équipe de France. Et donc, il a excité tout le monde en disant, ça y est, on va le voir enfin cet été avec la grande équipe, puisqu'il avait fait 2 matchs dans les fenêtres internationales, mais où il n'y avait pas les cadres. Et on était tous bouillants, tous chauds et tous contents de voir cet engouement. Et On est tombé de haut, en fait. On est tombé de haut, alors que s'il n'y avait pas eu ces annonces-là, ces discours sur l'équipe de France, on aurait éventuellement pu comprendre et être moins déçu. Mais il nous avait donné tellement d'attentes par ses propos qu'il y a une énorme déception. Moi, je suis déçu.
Il a donné de l'attente sur sa participation, en tout cas sur l'importance qu'il accorde à l'équipe de France, mais il a carrément dit qu'il serait à la Coupe du Monde, on peut l'écouter.
Pour moi, c'est une étape, bien sûr. J'ai pas du tout envie de passer à côté de cet événement. Ma volonté, c'est d'être en équipe de France cet été, en tout cas.
Voilà, ça c'était il y a quelques semaines, hein. C'était pas lors de sa semaine à New York. Fred, est-ce que tu es sous le choc ?
Moi je suis choqué pour la bonne et simple raison qu'effectivement il a tellement annoncé partout qu'il viendrait qu'on s'est pris au jeu, on a commencé à rêver, on s'est imaginé l'équipe de France avec lui et évidemment. Sauf qu'après quand tu réfléchis un petit peu, tu te rends compte que très peu de numéro 1 de la draft ont fait des compétitions internationales dans la foulée et aussi tu te rends compte que ben, concrètement il sort d'une saison où il a joué une seule fois par semaine, il a besoin de se préparer, il n'a jamais joué en NBA avec une attente assez incroyable, démentielle même. Donc concrètement tu le comprends quand il l'explique, sauf qu'il nous a mis l'eau à la bouche en fait, et c'est cette eau à la bouche qui nous choque et qui nous déçoit forcément.
Donc déçu, et pareil, comme Stephen d'un point de vue communication, mais tu le comprends.
Je le comprends évidemment, et bien sûr, quand il y a des enjeux comme ça, comment ne pas le comprendre, c'est impossible.
Toi Stephen, tu le comprends aussi.
On le comprend tous, ces explications sont justes, mais le problème c'est que tout ce qui avait été dit en amont sur l'équipe de France fait qu'on le comprend, oui, mais il aurait pu mieux expliquer les choses.
Mais c'est sa première erreur en communication,
et peut-être nous amener à ce forfait plutôt que de dire moi je veux être à la Coupe du Monde. Alors, d'après mes infos, les Spurs n'ont rien à voir avec cette décision, Pierrot. Les Spurs, quoi qu'il arrive, quoi que Victor ait décidé d'aller à la Coupe du Monde ou pas faire la Coupe du Monde, les Spurs l'auraient suivi. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc la décision, c'est Victor Wembanyama et son entourage. Voilà, elle a été prise par eux.
Toi, tu comprends, Sacha ?
Oui, je comprends parce que je pense que c'est l'étape, c'est le tournant de sa carrière, cette draft NBA, les Spurs, etc. Donc je pense qu'il y a la volonté de ne pas se louper parce que les attentes sont quand même ultra élevées. On a vu l'effet de la draft, c'est la draft qui a été la plus regardée dans le monde, etc. Je pense que ça met un petit peu la pression. Ce qui me fait rire, c'est que ça sentait venir qu'il y allait un truc qui allait tomber sur Victor Wembanyama, c'est-à-dire qu'on l'a beaucoup idéalisé, on l'a mis à sa juste place parce que c'est un symbole fort du basket. Mais immédiatement, au moment où il pose les pieds aux États-Unis, on est déjà en train de chercher la petite bête. Je pense que effectivement, il rate cette fenêtre-là. Je pense qu'il a vraiment l'intention de faire briller la France, mais déjà pour faire briller la France internationale, je pense que ça passe beaucoup par la case NBA, la case JO, pas forcément par la case du monde.
Je suis pas d'accord avec toi. On cherche pas la petite bête là. C'est lui qui l'a annoncé, c'est lui qui a dit si ce n'était que ma décision, j'irais. Et finalement, Stephen vient de te le dire, c'est quasiment que sa décision.
Oui, après...
Donc à un moment, il y a un discours qui est problématique.
Mais il y a un écart entre...
qu'il le fasse, qu'il ne vienne pas. On comprend. Mais
Sacha, tu trouves pas que depuis 12 mois, cette envie de se préserver, elle est prépondérante dans le discours. Je quitte l'ASVEL parce que je ne veux pas jouer l'Euroleague et je ne veux pas jouer le championnat et je ne veux pas jouer 80 matchs par saison au risque de ne pas me blesser. Il arrive à Boulogne chez les Mets où il a beaucoup de responsabilités. Il joue un match par semaine avec pas mal de minutes. Là, de nouveau, il veut se préserver alors qu'il va arriver dans une machine à laver la saison et on me dit qu'il veut jouer des matchs de Summer League. Quelle est la différence entre des matchs de Summer League, même s'il va jouer, on le connaît les matchs de Summer League, ça joue 15 minutes, 20 minutes. Mais bon, quelle est la différence entre jouer des matchs de Summer League et jouer 5, 6, 7 matchs, on l'espère, avec l'équipe de France à un très haut niveau. Moi, j'ai du mal à... Quand est-ce qu'il va arrêter de se préserver, en fait, Victor Wembanyama ? C'est ça, la question.
Je pense qu'il répond aussi aux doutes qu'on peut avoir lui. Si on prend l'exemple de Chet Holmgren, qui était aussi un gros prospect, qui s'est pété immédiatement NBA, je pense que ça met la pression, parce qu'on le compare souvent à lui. Et tout le temps, à chaque fois qu'on parle de doutes sur Victor Wembanyama, c'est le physique, c'est les blessures, c'est le fait qu'il soit plus fin que les autres. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, ça rentre dans ta tête. Et on voit qu'il y a un écart entre le moment où il fait ses déclarations sur la Coupe du Monde, le moment où il rejoint les Spurs. Il y a peut-être une prise de conscience qui se fait aussi par rapport au travail qu'il y a à mettre en place, que les Spurs lui ont dit. Enfin, je trouve que c'est difficile de lui tomber dessus maintenant, de dire que c'est une erreur de com. Je pense qu'il y a vraiment une volonté de faire ce qu'il a dit. Maintenant, voilà, la réalité des choses, le fait d'arriver chez Spurs, je pense que c'est quelque chose qui était peut-être aussi plus gros que ce qu'il avait prévu dans sa tête. Et malheureusement, voilà. Mais après, on lui donne un rôle comme s'il allait sauver l'équipe de France.
Là où tu vas, Sacha, il y a un gros, gros problème qui est partagé par l'ensemble du basket français. C'est qu'on est en train de faire de Wembanyama à Zidane, c'est-à-dire qu'il est incritiquable. Là, il faut absolument le critiquer pour cette décision. Il faut le faire parce que sinon, ça va devenir une sorte d'icône qui, quand le jour il fera n'importe quoi, on va pas le dire. Et c'est Victor Wembanyama. Aujourd'hui, il fait une erreur.
Non, mais c'est pas sur sa décision qu'il faut
le dire. Si. Je vais t'expliquer pourquoi.
Moi, je suis pas d'accord avec toi.
Parce qu'en fait, vous essayez.
Sur le timing et comment c'est arrivé cette
décision. Il y a une grossière erreur de communication, c'est évident. Mais sur la décision en elle-même, il faut quand même avoir à l'esprit, il faut comprendre et accepter qu'il n'y a aucune bonne raison de venir en équipe de France quand tu joues à NBA. Il n'y en a aucune. Tout te pousse à ne pas venir en équipe nationale et ça vaut aussi pour les basketteurs d'autres nationalités. Tout te pousse à ne pas y aller. C'est plus raisonnable d'un point de vue physique, c'est plus raisonnable du point de vue de ton contrat, c'est plus raisonnable pour plein de raisons. Ce qui veut dire donc que ce n'est que la décision du joueur. Il n'y a que un amour, une passion, quelque chose d'irraisonnable pour venir en équipe de France. Et moi, ce qui me désole, c'est qu'aujourd'hui, début de sa carrière, eh bien, il place tout de suite l'équipe de France en dessous de la NBA. Ce que n'a jamais fait Tony Parker, ce que n'a jamais fait Nicolas Batum, ce que n'a jamais fait Boris Diaw, qui sont des joueurs pour qui les enjeux étaient les mêmes, exactement les mêmes, dans le même contexte, avec chacun sa spécificité.
Tu peux pas dire ça.
Et plus Théo,
Tony Parker, il joue pas de Coupe du Monde.
Et plus Théo, plus t'as de raisons de pas venir en équipe de France. Donc quand t'es numéro 1 de la France,
c'est pour ça que les enjeux sont pas les mêmes.
Tout te pousse à ne pas
donc
y aller.
Tu peux pas dire les enjeux sont les mêmes.
Justement, aujourd'hui, Victor Wembanyama, quand il renonce à l'équipe de France pour des raisons peut-être sensées, eh ben moi je vous dis, je vous donne rendez-vous dans un an, je ne suis pas sûr qu'il fasse les Jeux Olympiques. Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, sa carrière NBA, elle va passer avant toute chose. Ça veut dire que si jamais, ça se passe pas très bien la première année, c'est possible, tout est possible.
Tout est possible, bien sûr.
Et c'est excusable. On ne lui demande pas d'être LeBron James la première année. Je veux dire, il a tout à faire. Ce gamin, il a tout à prouver. On ne va pas lui mettre une pression supérieure à ce qui est nécessaire sur les épaules. Rien n'est gagné, rien n'est acquis. Eh ben, je vous donne rendez-vous dans un an.
Mais non, mais attends, il a déjà la pression. On est en train de se dire qu'un mec qui a 19 ans, qui vient d'arriver en NBA, c'est le truc dont on a besoin à la Coupe du Monde. Je trouve que c'est déjà une pression. On est en train de
mais c'est pas ça.
En fait, si, on lui taille, on lui taille le costume de joueur.
Soit lui. Il peut le faire.
Il y a des choses
sa franchise
préparer,
va pas l'en empêcher.
Il y a des choses à préparer, Sacha.
S'il vient maintenant, l'équipe de France a 4 fois plus de chances d'être championnat.
C'est la NBA qui le paye. Son travail, c'est la NBA. C'est pas l'équipe de France.
Tout ça, c'est rationnel.
C'est valable pour tous les joueurs.
Oui, non, mais d'accord. Mais ton joueur providentiel, du coup, de l'équipe de France de basketball, c'est même pas un cadre qui était là depuis des années, c'est le mec qui vient d'être drafté numéro 1.
Sacha, t'es au courant que cette équipe de France, il y a un transfert de génération.
Je suis bien d'accord, mais regarde,
après les Jeux.
On fait souvent les parallèles avec Mbappé, etc. Le rôle d'Mbappé dans la Coupe du Monde 2018, c'est lui qui est censé être le héros de la France, où il y a déjà des cadres qui sont là.
C'est
la même chose avec Wembanyama, c'est que oui, c'est un apport de qualité, c'est un gros avantage d'avoir dans l'équipe de France, mais arrêtons de lui donner un costume de super-héros et en train de lui dire que c'est lui qui doit sauver tout le monde pour dire
si on veut être champion olympique en 2024, il y a quand même une osmose à se créer, c'est-à-dire que l'association Gobert ou Wembanyama, tu vas pas l'acheter sur le terrain comme ça et dire allez-y, soyez bon. Il y a des choses à préparer, il y a des automatismes à créer, puisque Wembanyama n'a jamais joué avec les cadres de l'équipe de France. C'est important aussi de créer quelque chose, de savoir quel est son rôle, si Victor devient tout de suite le joueur majeur de cette équipe-là ou s'il doit s'intégrer petit à petit. Ça veut dire qu'on va découvrir ça en 2024 en prépa sur les matchs de préparation. Ça veut dire que c'est risqué.
Non, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'équipe de France.
Non, mais c'est risqué. La comparaison est possible. Et le travail d'été de NBA, il est quand même reconnu. Et la plupart des joueurs le disent.
Le travail d'été de NBA, c'est du pignolage.
Non, parce que je te parle pas de la Summer League. Je te parle du travail qu'il va faire avec les Spurs. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en place. Tous les joueurs NBA le disent que c'est l'été, la vraie saison. C'est là où on se prépare. C'est là où il se passe le plus de choses.
Tu peux pas me dire que tu progresses en faisant du 1 contre 0, du travail individuel qui est important, plus qu'en jouant une compétition à la Coupe du Monde où tu affrontes des mecs qui jouent en NBA, qui sont les meilleurs joueurs de la Ligue.
Rappelle-toi, en train d'idolâtrer la Coupe du Monde comme c'était la compétition de référence. Ce n'est pas du tout le cas, les gars, vous le savez.
Rappelle-toi quand même que cette année, il s'est pas confronté aux meilleurs joueurs d'Europe déjà. Là, on lui donne une opportunité de, entre guillemets, franchir un petit palier. C'est-à-dire que tu vas à la Coupe du Monde juste avant d'enchaîner à affronter les meilleurs joueurs du monde.
C'est une évidence. En fait, j'ai du mal à accepter le discours de le mec, c'est nous. Enfin, quand je dis c'est nous, c'est tout le monde.
C'est
le mec qui doit changer le basket mondial. C'est le mec qui doit placer la France dans le monde du basket, etc. Non. C'est nous qui lui donnons ce costume. Non. Après, c'est à lui de faire les bons choix parce que sinon, on lui tombe tous dessus. Attendez, à un moment donné, le mec, laissez-le faire.
Je suis désolé, Sacha, la question, elle se pose pour tous les joueurs sélectionnables de toute nationalité. Et pour moi, qu'il soit numéro 1 ou qu'il soit un role player, la décision, elle n'est pas beaucoup plus simple à prendre.
Bah là, on tombe
encore
sur
une
lui
fois,
et Gobert, il dit qu'il est là alors qu'il disait qu'il n'était pas là, on le félicite pas derrière. Mais on préfère taper sur Wembanyama qui vient pas. C'est quand même assez. Je trouve que c'est fou comme vision.
Mais on tape pas sur Wembanyama. Le problème, c'est
moi,
qu'aujourd'hui.
C'est la communication sur laquelle je tape.
Il a, pour son début de carrière, placé l'équipe de France en dessous de sa carrière NBA, ce qui est tout à fait respectable. C'est tout
c'est
à
normal,
fait.
C'est normal même.
C'est tout à fait respectable.
Non,
mais
c'est respectable, je suis d'accord avec
toi. Mais le problème, c'est,
pas normal,
c'est que ça n'a rien d'obligatoire. Quand vous m'opposez des raisons rationnelles à ce choix, vous vous trompez complètement parce que lui, il a le pouvoir de décider que l'équipe de France, c'est au-dessus de ça. Et ce qu'a fait Tony Parker dans sa carrière, voilà, avec toutes les critiques qu'on peut avoir par ailleurs sur Tipeee ou les réserves ou ce que vous voulez, peu importe. Les mecs choisissent chacun en leur âme et conscience. Il est clair et net que depuis le début de sa carrière, ce qui est privilégié, c'est son contrat. C'est-à-dire qu'il est évident que la seule entité qui a intérêt à cette décision, ce sont ses agents. Pourquoi n'a-t-il pas fait l'Euroleague ? C'est pour préserver son physique, alors que pour sa progression sportive, il était meilleur qu'il joue l'Euroleague. Pourquoi ne fait-il pas la Coupe du Monde ? Parce qu'il est meilleur pour son contrat NBA, qu'il soit très performant en NBA et uniquement en NBA. C'est très clair. Le premier contrat de sa carrière, il ne se paye pas dessus, ses agents. C'est le deuxième qui va être le jackpot. Donc, qu'est-ce qu'il doit se passer ? Ce qu'il doit se passer, c'est qu'il soit un joueur avec des stats fantastiques en NBA pendant 4 ans, surtout la quatrième année, et que dans cette période-là, la seule chose qui comptera, ce sera la NBA. Lui, il a le pouvoir de s'opposer à ça. Manifestement, la pression a été trop difficile.
J'ai juste un truc à t'enlever.
On verra dans un an.
Moi, j'ai juste un truc à opposer à ça, Pierre. Tu le compares à Tony Parker. C'est
je ne compare
tout.
Pas. Non, mais je le compare à tous les autres joueurs
oui,
qui ont le même
joueurs.
Choix à faire.
Il n'a pas
mais il n'y a personne qui a le même choix à faire. Personne n'a été pick 1 de draft.
Il n'a pas le même profil physique. Il n'a pas le même profil physique. Ce garçon a fait 2m22
sur NBA. Tu crois que
il fait 2m22
sur NBA,
peut-être que cette préparation va lui permettre.
Il peut très bien dire à Popovic et s'arranger quand il y a 3 matchs par semaine, j'en joue 2.
Ce que je veux dire, c'est que peut-être cette période va lui permettre de se renforcer suffisamment pour enchaîner ses matchs.
Je vais vous poser une petite
honnêtement,
question.
C'est difficile. Tu peux pas comparer.
Mais c'est pas
7
matchs de Coupe du Monde sur 170 ans l'année qui vont changer quelque chose quand même.
C'est du temps de préparation en moins pour lui, pour son corps peut-être.
Je vais vous poser une petite question. En 2001, Tony est drafté en 28e position par les Spurs. 28e position, ça veut dire que tu n'as pas un spot garanti dans l'effectif des Spurs et qu'en général, tu essayes de t'imposer l'été avec la Summer League et jouer les matchs pour pouvoir gratter un spot. Tipeee, il est parti faire avec toi, je crois, en 2001. Non, j'étais pas là. Il fait l'Euro, direct en 2001, le transfert de génération, parce qu'il y avait encore, je crois, il devait y avoir Tariq, je crois, il devait y avoir
Lou Forest.
Il y avait Lou Forest. Ouais. Et Tipeee, 28e position, rien ne lui garantissait qu'il allait être starter 5 matchs après NBA. Il est quand même venu jouer avec l'équipe de France. Alors la comparaison. Elle se tient ou elle se tient pas, mais ça veut dire que lui, il a peut-être
c'est
sacrifié son été. C'est un choix. Par contre,
ils ont pas le même physique.
Le choix ne peut être que
Stephen, ils ont pas le même physique.
Il faut pas chercher de raison là-dedans.
Ce que j'ai aimé dans cette interview de Victor Wembanyama où il dit qu'il viendra pas en équipe de France, ce sont les dernières questions où il dit je sais que je vais m'exposer à ce genre de critique,
celle qu'elle contient
là autour de la table et que je les comprendrai.
Mais c'est pour ça que moi je critique pas le choix de Victor, je critique le choix de ceux qui disent oui c'est normal. Il n'y a pas de normalité là-dedans, ça n'est qu'un choix. Il faut arrêter de faire semblant que le pognon c'est toujours ce qui doit avoir raison. Ce n'est pas toujours ce qui doit avoir raison. Et d'autres avant lui l'ont fait le choix différent.
Morphotype différent.
Qu'on reconnaisse qu'il avait un choix différent à faire, qui était tout à fait possible. Je ne veux pas entendre l'explication. C'est normal.
Morphotype différent.
C'est un choix. Il a tout à fait le droit de le faire.
C'est un choix personnel.
Mais
c'est
son choix. Donc, place l'équipe de France en deuxième. C'est tout.
Et il fait ce qu'il veut. Et il fait ce qu'il veut.
Si c'est ça ton explication, je comprends que.
Bah non, mais attendez. Je veux dire,
moi, c'est même pas le choix de Victor qui m'énerve. C'est tout ce qu'on entend.
On parle du prospect le plus attendu depuis des décennies, sur lequel le seul doute qu'on a, c'est son physique. La seule réponse qu'il peut apporter pour assurer des.
Joël Embiid n'a pas joué sa première année en NBA.
Surtout aujourd'hui, son physique, excusez-moi,
il y en a plein qui n'ont pas joué leur première année en NBA.
Le joueur qu'il est, Joël Embiid.
Son physique, c'est pas s'il joue l'équipe de France ou pas que ça va changer quelque chose.
Moi, je veux dire, ça fait deux fois que j'ai des frustrations avec Victor. C'est la frustration de ne pas l'avoir vu jouer contre le Real, contre Barcelone et contre la Placo cette année. Et là, je vais avoir la frustration de ne pas le voir jouer contre Bobby Portis ou Kessler, le pivot de Utah, qui va être avec Team USA, Jokic, il est avec la Serbie, et tous ces grands joueurs européens qui jouent en NBA et qui jouent en Euroleague. Ce sera la deuxième frustration. Parce que j'aurais voulu voir victoire face à ces garçons-là en compétition FIBA, voir ce qu'il est capable de faire. Et ça l'aurait peut-être préparé aussi à ce qu'il attend en NBA. Maintenant, je vais m'en passer et je le verrai en 2024. J'ai pas envie de. Voilà, il a fait un choix, j'ai pas envie de le détruire.
Mais on est dans une situation, c'est ce que nous on veut. C'est-à-dire qu'on veut le voir, on veut le voir. C'est une personne, c'est lui qui choisit en fait. Il est là pour nous rendre service, les gars. Il a sa vie à faire en fait.
Ouais, mais nous, on a le droit quand même d'avoir une opinion.
Non, mais on a le droit d'avoir une frustration et je respecte totalement la frustration, que vous pouvez avoir.
À son discours
mais
d'avant surtout.
Le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir.
Joachim Noah était très largement critiqué lorsqu'il renonçait à l'équipe de France. Moi, je vous dis juste, essayez juste d'avoir un peu de recul. Moi, le basket, ce n'est pas mon milieu, donc j'en ai rien à cirer de ce qu'on va penser de mes propos. Et ne faites pas de Wembanyama quelqu'un qu'on ne peut pas critiquer, à l'instar de ce qu'était Tony Parker ou Zinedine Zidane, parce que c'est pas bon. C'est pas bon pour la vision qu'on en a, parce que ça déforme la réalité. Et donc aujourd'hui, son choix, il n'est pas pro équipe de France. C'est une évidence, en fait. C'est une évidence et c'est contre sa communication.
Oui, moi j'entends ce que tu dis, mais c'est pas pour autant qu'on est obligé à 19 ans de tomber dessus.
Non, on va pas lui tomber dessus. Il va peut-être faire une grande carrière en équipe de France.
L'explication me convient. Moi, elle me convient parce que je pense que c'est important pour lui de se préparer à une saison NBA qui va être longue, etc. Sauf que je me répète, le seul truc qui m'a dérangé, c'est qu'il m'a fait rêver, qu'il m'a donné l'eau à la bouche. C'est ça qui me fait chier.
Pierrot, on n'est pas à l'abri que Victor fasse 12 compétitions d'affilée avec l'équipe de France.
Tout à fait.
Et qu'on oublie cette sélection.
Ça, c'est tout à fait possible.
La Coupe du Monde.
Mais ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, moi, je n'ai aucune certitude qu'il soit là aux Jeux Olympiques. Aucune.
D'accord.
Ne soyez pas naïf.
Les Jeux à Paris. J'ose espérer quand même qu'à
Victor,
Paris,
la Tour Eiffel, tout ça, c'est écrit.
Mec, ils ont fait la Tour Eiffel en Lego à sa conférence de presse. Là, il va pouvoir jouer à côté.
Sa maman a demandé que la salle soit faite en Lego.
Non. Après, est-ce que l'absence de Victor Wembanyama, parce qu'on parle aussi de l'équipe de France et pas que Victor Wembanyama, est-ce que ça va empêcher cette équipe-là d'être médaillable à la Coupe du Monde, Pierrot?
Je sais pas, parce que Victor Wembanyama, pour l'instant, c'est pas le go-to guy de l'équipe de France. Donc, c'est aussi pour ça qu'il avait besoin de jouer. Bon, ça, c'est, on a déjà fait le débat. Oui. Après, moi, j'en ai aucune idée sur le niveau de la France. Les États-Unis n'envoient pas leur meilleure équipe, mais c'est quand même des joueurs très, très forts.
Moi, je pense que l'équipe américaine est bien meilleure que celle de 2019 qu'on avait tapé.
Aucune comparaison.
Ouais. Il y a des joueurs, Brandon Ingram, Anthony Edwards, mine de rien, c'est des joueurs solides. Bobby Portis, c'est des joueurs solides. Paolo Banchero, qui a mis une bonne banane à l'Italie.
Ils sont bien contents en Italie, par contre.
T'as vu la polémique, Pierrot? Parce que Paolo Banchero, il a un passeport italien. Ils sont partis le voir. Pozzecco est parti le voir toute l'année à Orlando. Oui. Il était à Milan. Il devait avoir un rendez-vous avec la Fédé italienne. Et ses agents ont dit il viendra pas au rendez-vous. Et il est avec Team USA. Je peux dire qu'ils ont la haine, les Italiens. J'ose espérer que Joël Embiid ne nous fera pas la même chose.
Hein. Oh là, moi, je sens que ça va venir, Steve.
Alors, qui est votre favori? Donc les États-Unis pour la Coupe du Monde.
Oui.
Que va faire l'équipe de France?
Ils sont médaillables parce qu'ils ont une belle équipe.
C'est
cette équipe qui a été vice-championne d'Europe et il manquait deux joueurs importants.
Vice-championne.
Non mais je parle de dernièrement vice-championne d'Europe.
Ah vice-championne d'Europe. Donc un niveau de jeu Qatar.
Avec un niveau de jeu Qatar, mais il manquait deux joueurs
très importants. Nico Nando va faire du bien.
Exactement.
Oui. Qui va prendre le poste laissé vacant par Wembanyama? Mathias Lessort.
Mathias Lessort, Mathias Lessort qui mérite d'y être, puis il va marcher sur l'Euroleague.
Et d'ailleurs, il sera peut-être plus efficace sur une compétition comme ça qu'il n'aurait été Victor.
Je pense qu'on va revoir Mustapha à 100% de ses moyens, parce qu'à l'Euro, il était diminué, il n'avait quasiment pas fait la prépa, il jouait quasiment pas, il était hors rythme. Donc là, Mousevard, et puis la présence de Rudy Gobert. La présence de Rudy
Gobert dans la raquette, Fred. Il y a un moment, on n'avait pas de pivot, c'est fini, c'était
Non, mais c'est génial. Mais en plus, moi, j'adore parce qu'il a cette capacité à recevoir le ballon dos au panier.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a plein de pivots, mais on n'a plus de meneur par contre. Ça s'est inversé. Avant, on avait plein de meneurs.
Mais tu sais pourquoi?
Pas de pivot.
Mais tu sais pourquoi? Parce qu'on dans la formation, on cherche que les grands. Si t'es pas grand, t'es pas sélectionné.
Voilà. Allez, on continue ce spécial équipe de France, mais cette fois-ci, on passe aux filles.
Et c'est terminé! Et c'est terminé! Victoire de la France dans cette petite finale! 82 à 68 face à la Hongrie! Il y a de la joie! Il y a des sourires! Et il y aura donc un podium, une médaille de bronze, 8e médaille européenne de suite depuis 2009. La France est toujours montée sur le podium européen, l'or en 2009, le bronze en 2011, ensuite 5 médailles d'argent consécutives et de nouveau le bronze. Cette année, les Bleues ne sont pas exactement où elles voulaient être, mais elles seront sur le podium de cet Euro et c'est déjà une jolie performance. Victoire 82-68 face à la Hongrie dans cette petite finale.
Alors, la troisième place de cette équipe de France est-elle un échec? Pourquoi on pose la question ainsi? Parce que l'échec, il est totalement nié par cette équipe de France de basket féminin et pourtant, on va se rafraîchir un peu la mémoire. L'objectif, c'était la victoire finale revendiquée par le sélectionneur Jean-Aimé Toupane.
Forcément, personnellement, pour moi, oui, ce serait un échec. Et j'ai pas peur d'assumer les conséquences derrière.
Voilà, ce serait un échec si l'équipe de France n'était pas médaillée d'or. Un discours qui a totalement changé après l'élimination en demi-finale.
Ouais, ça reste un résultat positif, on est sur le podium, même si on voulait plus, parce qu'on est des compétiteurs et que cette équipe-là avait envie de bien faire.
Et puis alors on va écouter les joueuses, et Sandrine Gruda notamment, qui est un peu au cœur d'un cyclone là, parce qu'elle a eu un peu les deux discours. D'abord elle réfute le terme d'échec et cite Giannis Antetokounmpo.
Écoutez, moi je parle pas en échec et de cette façon. Je n'ai pas vu le tir à but de Giannis Antetokounmpo, vous, mais bon, bref.
Voilà, qui avait expliqué que c'est pas un échec mais une étape vers la victoire, mais elle reconnaît quand même que cette équipe de France a des manques.
Je veux pas du tout pointer du doigt quiconque, parce que voilà, quand on perd tous ensemble. Mais c'est vrai que je pense que nous tous, à nos niveaux, on peut vraiment faire mieux. Sélectionneur y compris. Donc voilà, c'est juste ça que je peux dire.
Voilà, ça c'était sur Bein, sélectionneur y compris. Imagine, donc j'ai dû lui faire plaisir.
J'imagine qu'il y a Mbappé qui lâche ça au micro. On doit tous faire mieux, sélectionneur
après,
compris.
Raison,
je t'annonce que tous les médias prennent feu.
Après, elle a raison. Donc, c'est bien aussi que des joueurs et joueuses puissent dire un peu la vérité.
Oui, mais c'est pas courant d'entendre ce genre de choses-là.
Alors, c'est pas se cacher derrière un discours politiquement correct.
C'est Sandrine qui le fait, et je pense qu'elle a la légitimité de le faire.
C'est plus simple de le dire quand c'est elle.
Parce qu'elle a tout gagné, mais c'est une énorme déception. C'est une énorme déception ce qui s'est passé avec cette équipe de France.
Même sans Gabi Williams et Marine Johannes.
Même sans Gabi Williams et même sans Marine Johannes. Alors on va pas revenir sur pourquoi Marine Johannes n'était pas là. Gabi Williams qui est pour moi une des meilleures joueuses de cette équipe-là et il y avait un énorme manque. Maintenant, tout au long de la compétition, moi j'ai pas vu une équipe de France maître de son sujet. En poule, il n'y a que des victoires ric-rac contre des petites nations, Allemagne, Slovénie et Grande-Bretagne. Et rappelez-vous à chaque fois, oui, on y a la victoire, mais il y a des choses à améliorer. Tu joues le Monténégro en quart de finale, c'est mauvais, parce que le niveau global de cet Eurobasket, on va pas se mentir, il y a trois équipes, hein, France, Belgique et Espagne, et le reste c'est le néant. Et tu joues ton premier vrai match de compétition contre la Belgique, et Tu te fais détruire tactiquement sur les 20 premières minutes. Après, tu essaies de t'ajuster, mais trop tard. Il y a déjà une première erreur, c'est la défense pick and roll, où on met 25 minutes pour s'ajuster alors qu'on s'est fait détruire par Julie Allemand et Julie Vandeloup. Et au final, c'est trop tard. Il y a la gestion des 5 majeurs où Jean-Aimé Toupane, il pianote sur son banc. Tiens, toi tu démarres pas. Alexia Chartereau qui prend feu contre la Belgique et qui joue pas à la fin, qui est sur le banc. Iliana Rupert, blessée à l'épaule sur le dernier match de poule, il me semble, forfait pour le quart de finale. Et je te le dis, apte à jouer la demi-finale. Elle peut jouer, mais Jean-Aimé Toupane... Jean-Aimé Toupane dit que je ne veux pas la faire rentrer dans un match de très haut niveau comme ça. On parle d'Iliana Rupert. Hein. On ne parle pas d'une petite joueuse de 18 ans qui n'a aucune expérience internationale. On parle d'Iliana Rupert qui
fait partie... massacrer au rebond.
Et tu te fais détruire par le secteur intérieur de la Belgique. Et puis, on reprochait à Marine Johannes de louper 5-6 jours parce que la préparation était courte et que tu allais devoir créer une alchimie, une assise offensive et défensive. C'est ça que j'ai vu, la préparation. C'est ça que c'est le résultat de la préparation. Ma Marine, elle aurait pu ne pas faire la prépa et jouer au basket. Hein. je te le dis tout de suite.
Hein. Fred, c'est vrai ce que dit Steve ou pas? Parce que ça te fait rigoler, mais est-ce que tu partages son avis?
Moi, ça me fait un peu rire, mais je partage son avis, malheureusement. C'est vrai qu'on n'a pas vu grand-chose offensivement. C'était un peu cata. Et on avait l'impression que dès qu'une joueuse jouait bien, malheureusement, elle retournait sur le banc. Et Chartereau, on est un exemple assez précis. J'ai bien aimé aussi Fotoux. Elle aussi, elle n'a pas énormément joué. Et quand j'ai lu les déclats sur Iliana Rupert, j'ai failli tomber de mon siège, quoi. Mais c'est pas possible. Tu peux pas dire, objectivement, et en plus, moi j'en aimais, c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment. Tu peux pas dire, je la fais pas jouer dans un match de haut niveau. Non, mais c'est maintenant que tu l'as fait jouer,
On va faire une comparaison foot. Mbappé est blessé à la Coupe du Monde les deux derniers matchs de poule. Tu le protèges pour le quart, tu étais en demi, il peut jouer et tu fais pas jouer.
c'est exactement ça. On n'est pas très loin de ça.
Ouais, mais enfin, non,
moi, c'est incompréhensible.
Enfin, moi, c'est rare, je bois les paroles de Steve sur ce qu'il dit. Je trouve qu'il a 100%
c'est
raison.
C'est rare, le mec, il a commencé juste en disant
non,
c'est rare.
Non, mais on va pas se mentir. Non, mais c'est bien sûr que c'est décevant, mais enfin, toutes les raisons de la déception, on les connaît. C'est le traitement du cas Johannes, c'est le sélectionneur, c'est les choix qui ont été faits. Donc, au final, le résultat, il est à la hauteur de ça et c'est un petit peu compliqué. Et
après, équipe belge, très belle équipe.
Bah, c'est ça aussi.
Et aussi, un autre truc, c'est que le sélectionneur, il a bon dos. Quand tu prends pas un rebond défensif, c'est aussi un peu de ta faute quand même. Il n'y a pas que le sélectionneur, il ne peut pas rentrer sur le terrain. Hein.
Oui. Je pense que la Belgique aussi était un petit peu sous-estimée. Enfin, pour peut-être ceux qui sont moins connaisseurs du basket féminin.
C'est sur la demi-finale favorite des bookmakers.
Non, mais il y a quand même des joueuses de qualité. Enfin, quand on regarde Emma Mesman, que moi j'avais suivi en Euroleague féminine et je crois en WNBA aussi. Enfin,
championne et MVP.
Ouais. C'est une immense joueuse. Enfin, faut s'en rendre compte. C'est très très large. Donc, il y a une
équipe qui est
très bonne. Mais ça montre aussi que le basket belge féminin, ça monte en puissance. puissant, c'est qu'effectivement, il y a déjà des joueuses qui sont bien installées. Il y a des choses qui se passent dans le basket européen féminin. C'est décevant, mais en même temps, on n'y va pas avec la plus grosse équipe. Il y a ce transfert aussi au niveau du sélectionneur. Enfin, bah, c'est relou, mais en final, est-ce qu'on pouvait s'y attendre ? Moi, je pense que non.
Attends, deux secondes, Pierrot. Jean Persuta, là, au micro de nos confrères de Bein, qui disait, pour revenir sur le cas Marine Johannes, il disait, regardez, Emma Missman et Julie Allemand, elles ont fait une croix sur la WNBA pour jouer avec la Belgique. C'est vrai. Sauf que les Belges, nous, on est qualifiés hein, pour les Jeux 2024. La Belgique n'était pas qualifiée. Ils devaient absolument performer à cet Eurobasket pour aller au TQO et se qualifier. Donc, ce n'était pas les mêmes enjeux non plus. Et ce qui est fait, voilà.
Mais alors, est-ce que Jean-Aimé Toupane peut continuer après ça ? Après, est-ce que vous me dites, s'il est responsable en grande partie de l'échec, est-ce qu'il peut amener l'équipe de France au JO de Paris ?
Il a la confiance du président de la Fédé, mais je pense que c'est pareil dans tous les milieux. Plus le président dit qu'il que tu as la confiance et que tu es entraîneur,
ouais, mais
tu commences
à sentir
le
rôle. Est-ce qu'il serait bon de changer ou est-ce qu'il faut qu'il ait une deuxième chance ? Parce que quels vont être ses rapports avec Marine Johannes ?
Ben déjà, c'est compliqué. Honnêtement, je suis encore un peu massacré. Moi, je pense qu'il ne peut pas continuer. Ce n'est pas possible. Après ce qui s'est passé, c'est pas possible. Je suis désolé, encore une fois, j'en aimais, je suis désolé. Mais quand tu dis sur le terrain qui joue 4 dans notre équipe, à un temps mort, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai pas d'autres mots, j'ai pas compris les choix tactiques, j'ai pas compris la façon dont la France jouait, j'ai pas compris qu'on se trompe sur les noms des joueuses. Voilà, il y a plein de choses que j'ai pas compris et ça me fait très mal.
Steve ?
Moi, ça me paraît. Après, les propos de Jean-Pierre étaient assez unanimes en disant que le joueur aimé, bon, lui, il était là à Paris 2024. Maintenant, tu changes à un an des Jeux. T'as pas beaucoup de matchs non plus pour à jouer avec si tu mets un nouveau sélectionneur en place. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cassé entre les joueuses et Jean aimé. Marine, quid de Marine ? La question, elle est bonne. Marine qui doit revenir parce que je te rappelle que normalement, la règle, c'était l'Eurobasket, c'était le passeport obligatoire pour les Jeux. Donc, ils vont devoir faire un pas en arrière si Marine veut revenir.
Et pour les garçons, le mondial, c'est pas aussi pour les Jeux.
Non. Pas là, c'est pas la même chose.
Vaut mieux pas,
les filles et pour les garçons, mais moi ça me paraît compliqué de ce que j'ai vu. Et rappelez-vous que c'est pas le premier accro de Jean Aimé. Il avait démarré par une défaite en Ukraine, il me semble.
Sa décharge, celui-là il était piégeux. Et puis il y avait une joueuse, je me rappelle,
après
qui nous fait un match.
D'accord. Après, rappelez-vous, il n'y avait pas des qualifs où ils avaient perdu deux matchs. Ils s'étaient qualifiés ric-rac pour la Coupe du Monde en gagnant un match.
La Coupe du Monde est pas ouf.
Et la Coupe du Monde, ils ont beau nous dire c'est un joli quart de finale parce que c'est un renouvellement, il n'y avait pas Sandrine, il n'y avait pas Marine qui était blessée, mine de rien la France quart de finaliste, moi je veux bien hein, mais bon, pour moi c'est pas suffisant. Les propos de Sandrine, parce que quand tu es sélectionneur et t'entends les propos de Sandrine Gruda, qu'est-ce qui se passe gros ? Est-ce que tu la convoques dans le burling pour mettre les points sur les i parce que c'est compliqué après à vivre.
Et Gabi Williams,
Sacha, qu'est-ce que t'en penses ?
Tu vas revenir.
C'est compliqué, il y a des erreurs de com, etc. Mais tu sens que le sélectionneur est quand même installé, donc en fait je trouve que c'est presque la Fédé et la façon dont on a géré l'équipe de France féminine. Je trouve que ça a été fait un petit peu avec le boulard, genre ouais, l'institution elle est en place, elle est plus grande que vous, respectez ça, etc. Les joueuses, c'est pas ci, c'est pas ça. Bah, au final, t'avais besoin de tes joueuses, t'avais besoin qu'il y ait cette alchimie, t'as voulu faire un petit peu le mec en disant non, on n'a pas besoin de ci, si elle fait ça, elle viendra pas, etc. Vrai, bah, ça, après, ouais. Tu te plantes en vrai. Et donc, moi, je veux bien lui donner une chance avec l'effectif au complet, et là, te plante pas, mais par contre, derrière, c'est dernière
après,
chance. Quoi.
Après, on casse du sucre sur le dos de Jean Aimé. Il faut aussi rappeler que Valérie Garnier n'a jamais été championne d'Europe.
Oui, oui.
L'effectif à chaque fois au complet. Et des énormes équipes. Donc, ouais,
c'est... Et elle aurait été critiquée aussi, je pense,
exactement.
Pareil.
Mais la gestion de l'après Valérie Garnier...
elle n'est pas au top.
Elle n'est pas au top, puisque tu l'aperçois que Rachid Méziane, qui était l'assistant pendant X années de Valérie, et finalement, il dégage du staff et tu le retrouves sur le banc de la Belgique.
Et il gagne.
Champion d'Europe. Que Julie Barène, qui est une coach réputée dans le basket féminin, avec Basketland, qui fait du bon boulot, et ben finalement, elle n'est même pas proposée. Enfin, elle n'est même pas sur... Ça veut dire qu'on a pris... Ce qui a fait débat, déjà, c'est dès le départ. On a pris quelqu'un qui est compétent, certes, qui a coaché l'équipe de France U20, qui a été notre assistant avec Fred en équipe de France avec Claude Bergeau, qui a fait des bonnes choses, qui a été en pro A avec Clermont.
Ouais, sauf que tu connaissais pas le basket féminin.
Tu le mets sur un poste où il a tout à découvrir en fait. C'était ça aussi le premier point d'interrogation. Et ben tu t'aperçois que ça a été compliqué.
Basket Time, c'est tous les mardis en podcast sur rmc.fr. Et pour cette semaine spéciale équipe de France, nous allons parler de la Coupe du Monde.
Schmidt is one of the greatest offensive players the game has ever seen.
Boy, Oscar has found no conscience for this three-pointer. Oscar is putting on a show here.
Grabs the rebound. Rubio! Beautiful finish.
Coming up against Bodiroga, and Bodiroga takes him.
Rubio to a little fall away. Soft touch off the glass.
This will be a big one from Gasol, who's pumped. And the ball falls. A three-point play opportunity.
Alors, dans cette partie historique, vous allez me parler d'une performance individuelle en Coupe du Monde qui vous a frappé, qui a frappé les esprits. On va démarrer avec Fred Weiss.
Eh bien, on va partir sur le Mondial 90.
Alors, Mondial 90, là, on est dans un autre temps, carrément.
Ouais, t'es dur. Oui, mais c'est encore... Il y a la couleur, déjà, quand même.
Il n'y a pas autant de joueurs européens en NBA. Il y a encore l'URSS et la Yougoslavie, si je ne dis pas de bêtises. L'URSS
et Yougoslavie. Si, les deux. Bravo. Bravo sur ça.
Il est bon sur l'histoire.
Ouais, franchement. sur le sport moyen, mais...
Plus que sur le basket des années 90, c'est pour ça.
Donc, on est sur le Mondial en Argentine. Et j'ai envie de parler d'Oscar Schmidt, la Mao Santa, la main sainte. Alors, il a 32 ans à cette époque-là, donc il fait toujours ses 2m5. Et il est arrivé en Europe, en Italie,
brésilien,
en 82.
Hein.
Brésilien, oui, exactement. Et depuis qu'il est en Italie en 82, donc jusqu'à 90, il a été 6 fois meilleur marqueur de la Ligue italienne. Juste pour un peu parler un peu du garçon avant. Il revient de Séoul, qui a eu lieu en 88, où il a montré son talent incroyable. Plus de 42 points de moyenne. Il perd contre l'URSS, justement, la grande URSS. Et lui, il scorera 46 points dans ce match-là. Donc ça, c'est en préambule. Et donc, on va partir sur les matchs de ce mondial. En poule, il tombe contre l'Italie, d'accord, où il va mettre 25. Puis la Chine, où il va mettre 35. Et il va enchaîner contre l'Australie. Et là, seulement, il mettra 18 points. Donc ils vont terminer quand même premier de leur groupe et ils vont tomber dans le groupe de la Muerte, la Yougoslavie, la Grèce et l'URSS. Le Brésil va perdre ces trois matchs, hein, évidemment, parce que le Brésil, c'est pas de ce niveau-là. Mais contre la Yougoslavie, il va mettre 34 points. La Yougoslavie, il y a Kukoc, Divac, Petrovic.
C'est correct.
Ça dit quelque chose, Petrovic, peut-être.
Je vois.
Ensuite, contre la Grèce, il va mettre 35. Ok, donc tranquillement. Et ensuite, contre l'URSS, il va en remettre 34. La grande URSS, encore une fois. Donc ils vont tomber sur des matchs de classement, parce que finalement, ils ne vont pas jouer la médaille, mais ils vont jouer quand même un positionnement pour terminer cinquième. Et donc ils vont rejouer contre l'Australie. La première fois, ils avaient perdu d'un point en poule. Ils rejouent contre l'Australie. Et là, il a vraiment envie d'être classé cinquième, je crois. Parce qu'il met 52 points dans un match qui se termine à 193. Donc sur 100 points, il en met 52.
100 okay. points de son équipe. Il met plus de la moitié des points.
Il en met plus de la moitié, ce qui était plutôt pas mal. Les Australiens, c'est très moyen. Puis ensuite, il enchaîne sur la Grèce. La Grèce, c'est plutôt rugueux quand même. Le score sera de 97 à 94. Et lui, il va en mettre 44. C'est-à-dire qu'en deux matchs, il va marquer 96 points. Donc, ils vont terminer 5e. 96 points en deux matchs pour lui. Il va terminer avec une moyenne de points incroyable. Il va devenir le plus gros scoreur de l'histoire du mondial avec 843 points marqués au mondial. J'avais envie de parler de ce joueur qui était incroyable, très délié, capable de faire plein de choses, un QI basket énorme.
Alors, sachant que tu as choisi cette perf, et c'est une performance individuelle que vous demandez, donc ça fonctionne bien évidemment, mais dans une équipe qui n'a pas performé lors de cette Coupe du Monde.
Cinquième, donc, c'est pas dégueu franchement.
Non, c'est pas dégueu,
pour le Brésil.
Mais il a pas fait gagner son équipe, donc non, mais je remets pas...
Bah si,
j'ai une question à te poser en fait.
Non, mais attends, je termine, il fait gagner son équipe parce qu'il bat quand même l'Australie et la Grèce, qui étaient supposés être plus forts
qu'eux. Il leur fait pas gagner une médaille.
Non.
Donc voilà.
Tiens, on voulait savoir si t'es policier maintenant.
Non, je voulais que tu nous dises un mot un peu du joueur au-delà des stats, puisque c'est un nom pour moi. Oscar Schmidt, c'est comme un peu un fantasme.
Hall of Fame.
C'est un peu comme Larry Bird, c'est des mecs, tu sais, qui sont forts. Je les ai jamais vraiment vus jouer en fait.
Bah, concrètement, je l'ai pas vu énormément jouer. Hein. J'ai vu des vidéos pour préparer le podcast, mais c'est vrai que je l'avais pas vu énormément. C'est un joueur de 2m5 qui était extrêmement délié. Donc déjà pour l'époque, c'était très surprenant.
Ce qui était rare.
Capable de shooter de loin. En fait, en gros, quand il attaquait le panier, c'était un ou deux dribbles, pas plus. Mais il n'avait pas besoin de plus parce qu'il avait un shoot particulier qui lui permettait de dégainer sur tout le monde. Il n'allait pas très près du cercle, il n'avait pas besoin, mais par contre, il y avait un QI basket qui lui permettait de trouver toujours la faille à la défense adverse.
Alors en tout cas, c'est un joueur qui est la légende du basket brésilien et qui n'a passé qu'une seule saison en NBA au Nets. Steve, de qui vas-tu nous parler ?
À la grande surprise générale.
Merci Pierrot. Mais on devrait te mettre un veto.
Merci Pierrot.
Il va le faire.
C'est possible, on sait des choses que tu vas nous dire.
Je vais te parler d'un joueur allemand qui s'appelle Dirk Nowitzki.
Okay.
Tu connais ? On est en 2002. C'est la première fois que la Coupe du Monde a lieu aux États-Unis, à Indianapolis. Team USA, après une Coupe du Monde 98 tronquée, puisque c'était le lockout, ils n'avaient envoyé aucun joueur NBA. C'était que des joueurs américains qui jouaient sur le continent européen. Et ça avait été un fiasco complet, puisqu'ils avaient fini 3e. Et Team USA, chez eux, ils veulent laver et l'affront. Donc ils envoient des Baron Davis, des Paul Pierce, des Reggie Miller, des Ben Wallace. Mais là encore, ça sera un flop complet puisqu'ils vont finir 6e. Et au deuxième tour, ils perdent contre l'Argentine.
Malgré le Baron,
ton joueur. C'est pour ça que j'ai... Et au deuxième tour, ils perdent contre l'Argentine. Et ça sera, écoute bien ce chiffre, cette défaite contre l'Argentine, c'est la première d'une équipe composée de joueurs NBA depuis leur participation en 92. C'est la première fois qu'une équipe américaine composée de joueurs NBA perdra un match officiel. Et ils perdront ensuite en quart contre la Yougoslavie. Mais il y a une équipe qui ne faisait pas partie des prétendants au podium, qui va réaliser un parcours incroyable, c'est l'Allemagne. Emmenée par un seul homme, Dirk Nowitzki. Il sort des poules et il joue contre l'ogre espagnol en quart de finale. Victoire des Allemands à la surprise générale, 70-62 avec un énorme Nowitzki. Ils perdent ensuite contre les Argentins en demi. Puis ils attrapent la médaille de bronze, la seule et l'unique à présent dans l'histoire de la Manche.
C'était un peu dur. Il n'y avait pas Patrick Femmerling, Ademola Okulaya, oui. Des joueurs plutôt très corrects d'Euroleague. Hein.
Très correct de Euroleague, mais bon, emmené par qui ?
Mais je sais pas.
Emmené par en demi-finale, pour la troisième place, il tape la Nouvelle-Zélande à la surprise générale de Pero Cameron. Tu te rappelles de
oui,
Pero, le petit bouboule là. Et donc, Dirk sera élu MVP de la compétition. C'est plutôt rare dans une équipe qui termine que troisième. Médaille de bronze, il termine meilleur scoreur de la compétition. Cinquième rebondeur, deuxième contreur. Il fait 34 points, 10 rebonds contre les Américains. 29 points, 8 rebonds pour la troisième place. Et il a que 24 ans. Et c'est le début de la domination de l'Allemand sur le basket FIBA, puisqu'en 2005, en Serbie, l'Allemagne prendra la médaille d'argent, là encore avec le titre de MVP de la compétition et de meilleur score pour Dirk Nowitzki.
Alors j'avoue qu'il n'y a pas que des flèches quand même dans cet effectif, en tout cas je ne suis pas capable de...
Femmerling, joueur très correct de Euroleague, Okulaja, joueur très correct de Euroleague, il y a quoi, il y a Demirel, non ?
Niad Demirel, exactement.
Meilleur de jeu correct, mais on n'est pas non plus sur des joueurs exceptionnels.
Voilà, Henrik Rödl, Pascal Roller, Marco Pešić, bon, tout ça, moi, ça me dit absolument rien.
C'est maintenant, Pascal Roller.
Probablement des très bons joueurs, hein, je sais pas. Et Stéphano Garis,
métis, costaud.
Il fait quoi comme sport, comme activité, un petit jeu de mots,
Garis, non,
je sais pas, je me suis dit ça pouvait passer. À toi, Sacha, la meilleure performance individuelle d'un joueur en Coupe du Monde de basket.
Moi, j'ai pris une performance qui m'a marqué, particulièrement sur une finale de Coupe du Monde. C'était Kyrie Irving en 2014 face.
Oh merde. La réaction de Fred.
C'est terrible.
C'est un beau joueur, Kyrie Irving.
Magnifique. Non, Kyrie Irving en 2014. Pour... Ah ouais, je savais que ça allait te faire parler. Qui en fait est un leader avant l'heure. En fait, c'est hyper intéressant parce que c'est Team USA. Je vais vous donner quelques noms qui composent l'équipe et on va se dire c'est Kyrie Irving qui ressort du lot à la fin. Steph Curry, Klay Thompson, Derrick Rose, Kenneth Farid, qui a un rôle très important en plus
sur cette Coupe du Monde là.
DeMar DeRozan, DeMarcus Cousins, James Harden, Anthony Davis, André Drummond. On n'a pas tous les gros noms calibre MVP. C'est la nouvelle génération un peu qui s'installe au pouvoir de Team USA. Mais finalement, c'est Kyrie Irving qui va être le vrai leader de cette équipe à seulement 22 ans. Alors que ça fait 2 ans qu'il est en NBA, il va les conduire alors et il va surtout faire une finale face à la Serbie parce que j'ai de bons souvenirs et c'est une Coupe du Monde dans laquelle on a aussi de bons souvenirs puisque la France prend une médaille de bronze, on se rappelle du match face à l'Espagne, etc. Moi, je me demandais vraiment, est-ce que la Serbie, avec ce jeu collectif, t'as pas les moyens de faire un petit peu déjouer cette Team USA ? Et finalement, il n'y a pas eu match. Et il n'y a pas eu match parce que Kyrie Irving, en finale, tout simplement, c'est 6 sur 6 à 3 points, c'est 10 sur 13 au tir et c'est 26 points. Et très rapidement dans le match, il fait un match de patron, un match d'ancien. Il contrôle et il domine toute l'équipe de Serbie à lui tout seul. Et c'est lui qui insuffle tout cet élan-là à Team USA, qui fait qu'il s'impose d'une trentaine de points assez largement et qu'ils vont aller prendre l'or. Et je trouve qu'avoir un leadership et une maturité dans le jeu, et surtout une adresse aussi insolente en finale de Coupe du Monde à 22 ans, c'est un Kyrie Irving que malheureusement on voit plus très souvent.
Et tout ça en étant surveillé par le FBI. Ça, tu l'as pas dit, ça compte quand même. Hein.
Ouais, t'imagines, il y a tous les outils.
Juste pour info, l'équipe de Serbie était sur le rooftop peut-être 3 heures avant le match en train de prendre le soleil et se baigner dans la piscine. Juste pour se rappeler un petit peu de cette Coupe du Monde.
Messieurs, c'est l'heure du quiz.
Oh, j'ai pas trop coupé les cheveux en 4. C'est parti là en premier, c'est parti chez
Sting. Ouais, comme chaque semaine, c'est parti.
C'est parti là-bas en
premier. Et là,
premier.
C'est après ou pas ?
C'est Alex.
Le roi des corvères ménagères.
Ouais, exactement. C'est plus trash que ça, hein. C'est plus violent.
Fuck you.
Bah, tu te rapproches.
Asshole, motherfucker, son of a bitch.
I locked that shit up, boy. Fermé sa gueule à cette merde.
Tu commences à sortir un process qui croit après un titre qu'ils sont.
Tu peux plus séparer.
Voilà pour le quiz. Donc, nous allons parler équipe de France et Coupe du Monde. C'est bon pour
c'est
vous.
Spécial Coupe du Monde.
C'est pas un spécial Coupe du Monde, c'est un spécial basket international, mais très axé.
Difficulté
légèrement supérieure à
4
l'habitude.
Étoiles.
Sur combien ? Sur 5 ? Il y a des questions 4 étoiles. Ouais.
Ah oui, quand même.
Oula. Toutes les questions ne sont pas 4 étoiles, cela dit, donc vous allez pouvoir vous en sortir sans problème. On va démarrer par un tour de table. C'est très simple. Je vous donne un joueur de l'équipe de France. Vous me dites s'il a plus ou moins de 100 sélections. Ça va aller très vite, donc on fait rapide. On démarre avec Stephen.
Oui, bonjour.
Rudy Gobert.
Rudy Gobert,
100 sélections.
Plus ou moins de 100 sélections. Ah, il hésite, le Lascar.
Moins.
Il a moins de 100 sélections, il a 87 sélections. Sacha, Evan Fournier.
J'ai envie de mourir.
T'as envie de mourir. Alors, réfléchis.
Je vais dire moins aussi de peu.
Il a exactement 93 sélections, c'est une excellente réponse. Fred Forte.
Tu penses qu'il va y avoir 3 noms de suite en dessous des 100 sélections, Fred ?
Fred Forte.
Il doit être à 100, mais de peu. Hein.
Donc ?
Ben oui.
Donc non, plus. Moins 73. Steve, Andrew Albici.
Andrew Albici, il a joué un paquet de matchs. Il a joué les fenêtres internationales, donc je vais dire plus de 100 sélections.
90 sélections.
T'as vu ? C'est bien.
Sacha, Antoine Rigaudot. Ah, il ne sait pas, il a envie de mourir. Oh, arrête, et là, il a encore envie de mourir.
La question la plus facile de la question.
Je vais dire oui.
Alors oui, il en a 128. Même, et Fred, Cyril Julian.
Oui.
Bien sûr, 135 Cyril Julian. Quand même, c'est costaud, hein.
Cyril, la main droite.
Cyril Julian.
135 sélections qu'avec une main, c'est rare.
Donc, il n'y a que celui qui capte rien au basket international et à l'équipe de France qui a marqué 2 points, c'est Sacha. Là, attention, on va réentendre David Cosette.
Rapidité.
Je vous l'avais promis tout à l'heure.
Rapidité.
Je donne un extrait de match. Je vous laisse sur une trentaine de secondes. C'est une fin de match. Et vous devez déterminer de quel match il s'agit. Écoutez bien, parce qu'il donne beaucoup d'indices au fur et à mesure.
On n'a jamais été aussi près, David.
Avec Jacques Monclar.
Le deuxième.
Finale à Ljubljana, France.
Oui, le deuxième pour Joachim Noah. Plus 8 à 15 secondes. Ce match est quasi gagné. Borosis, la vieille bricasse qu'il envoie.
C'est
France-Grèce 2011, bravo Fred. France-Grèce 2011, donc victoire 64 à 56 avec un peu les genoux qui tremblent au moment où il y a plus 4 et quelques poignées de secondes.
Et les Grecs nous ont fait flipper déjà.
Ils s'en sortent très bien.
La seule et unique campagne de Joachim.
Surtout le miracle ne marche pas deux fois parce que les Grecs ratent les shoots un peu casse-croûte.
Et d'ailleurs, cette équipe-là de 2011, quand tu parles avec Tony ou avec Nico Batum, ils te disent que pour eux, c'est la meilleure équipe
battue en finale par l'Espagne. Ouais. Très forte Espagne aussi, hein, oui. c'est normal. Donc, c'est Steve qui a un point de retard pour l'instant. Alors là, vous allez me donner tour à tour, mais pas forcément dans l'ordre, hein, les 6 derniers sélectionneurs de l'équipe de France féminine. C'est Stephen qui démarre.
Jean-Aimé Toupin.
Bravo, bonne réponse, excellent. Un point. Sacha.
Je pense qu'on en parlera rapidement.
Madame Garnier.
Valérie Garnier, excellent. Bravo, Sacha. À toi, Fred. Tu vas me dire que tu sèches déjà.
Non, mais en fait, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Mais c'est l'ancien coach de Pierre Vincent.
Excellent.
Voilà, je ne retrouvais plus. Pierre Vincent.
Voilà. Maintenant, les 3 précédents. On va remonter.
Alain Jardel.
Alain Jardel, c'est bon, bravo.
Mais j'ai plus, là, par contre.
Je suis à l'aise maintenant.
Pendant presque 10 ans. Donc là, tout le monde est à 3 points, mais il ne reste plus que 2 bonnes réponses. Et c'est Sacha et Fred qui doivent répondre. Sacha.
Et je vais aller couler en disant Michel Thor, parce que...
Michel Thor.
C'est qui Michel Thor ?
La chanteuse. Donc Fred.
Jacky Comer.
Excellent, bravo.
Il m'a volé mon nom, j'ai la haine.
Parce qu'il est resté à peine un an, Jacky Comer. Un an et 2 mois. Et donc, il y en a un dernier.
Là, je te respecte, franchement.
Si tu le trouves.
Attendez, Geoffrey Charpie, qui est le producteur de cette émission, il me souffle dans le casque, il est tellement content, il me dit Alain Jardel.
Je dis, est-ce que tu l'as le nom du sélectionneur pendant près de 10 ans, 89-97, avant Alain Jardel ?
Avant Alain Jardel, sélectionneur de l'équipe de France. C'est un garçon ?
Ouais. Oh, si tu l'as pas, tu l'as pas. Hein.
Paul Besson.
Oh, bravo ! Il y a eu triche. C'est quoi, j'ai vu sur ta gueule. J'ai vu sur ta gueule qu'il y a eu triche.
J'ai bien, Pierre.
Bon, alors on l'accorde pas.
Je le dis quand même, j'ai triché.
Bravo, c'est beau de ta part. Donc c'est Paul Besson, effectivement.
Mais je l'avais pas. Bon.
Paul Besson, je l'avais pas du tout non plus.
Fred a un point d'avance.
Hugo Besson, Jean-Paul Besson.
Vous êtes prêts pour une charade ?
Oui. Prénom, non.
Mon premier, prénom et nom, bien sûr. Mon premier est la tête qui a le moins de valeur. Réfléchissez. Mon premier est la
Valérie Garnier.
Valenciunas. Mon second est une céréale.
Valerian Vukosayevic. C'est ça.
Alors, je te l'accorde, mais c'était Valerian Ayayi. Ah, le dernier indice étant qu'elle avait changé de nom, donc c'est ça. Ah. Effectivement, bravo. Bravo, Stephen, tu égalises 4 partout.
Vas-y, bah, finis la charade quand même.
Ah bah, mon troisième est têtu. Bah, mon deuxième est une céréale, mon troisième est têtu. Donc là,
mon
on a
troisième
le prénom.
Céréale.
Riz, le riz.
Un Valérie.
Anne.
Anne.
Mon quatrième se dit quand on se fait tomber un objet sur le pied.
Aïe.
Mon cinquième se dit quand on se fait tomber un objet sur le pied.
Aïe, aïe.
Mon sixième se dit quand on se fait tomber un objet sur le pied. Et mon tout à 125 sélections en équipe de France et a changé de nom récemment. Valerian Vukosavljevic. Aïe, aïe, c'est pas très bien sorti le Vukosavljevic.
Vukosavljevic.
Allez, alors là, on va monter encore d'un niveau.
On va monter c'était, en... c'était déjà dur, je trouvais.
Ouais.
Moi.
Ouais, bah, c'est, je vous ai
parce que
prévu,
le Paul hein. Besson, là.
Je vous ai prévenu.
Je me suis dit Luc Besson aussi.
Donc là, on est sur les sélectionneurs de l'équipe de France masculine maintenant.
Oui.
La réponse, c'est Claude Bergeot, Michel Gomez, les deux ou aucun des deux. Ok. Chacun.
Quoi, je sais déjà quelle question il va poser.
Claude Bergeot, oui. Michel Gomez, ou les deux ou aucun, ou aucun des deux. C'est bon pour vous ?
Il y a quatre tiroirs.
Allez, on démarre avec, du coup, c'est Sacha qui est dernier. Sacha, j'ai été trois fois coach de l'année en Pro A. Michel Gomez, Claude Bergeot, les deux ou aucun des deux. Trois fois entraîneur de l'année en Pro A.
Claude Bergeot.
La réponse est Michel Gomez. Claude Bergeot l'a été une fois en 99.
Je
Fred,
suis là, je t'écoute.
J'ai entraîné Antibes. Claude Bergeot, Michel Gomez, les deux ou aucun des deux.
Aucun des deux.
Michel Gomez a entraîné Antibes
Michel
entre
Gomez,
la saison 98-99.
Je ne me rappelais plus du tout, moi non plus.
Stephen, j'ai entraîné Boris Diaw.
J'ai entraîné Boris Diaw.
Ouais.
C'est bien. Alors, Claude Bergeot, c'est sûr et certain qu'il a entraîné Boris Diaw. Michel Gomez, en club à Limoges, il n'a pas entraîné Boris Diaw. À Pau, il n'a pas entraîné Boris Diaw parce qu'il était trop jeune. En équipe de France, Michel Gomez, je l'ai eu moi, mais il y avait Baba qui n'était pas là, fait la passe sur la compétition. Donc, je vais dire Claude Bergeot. Christian.
Les deux en équipe de France.
Mais Baba qui n'a pas joué avec Michel Gomez.
Bon, vu le temps qu'est resté Michel Gomez, je suis sûr qu'il l'a eu, non ? C'est obligé.
Hein ?
Ah, t'es sûr de toi là ?
Ouais, parce que la seule campagne qui est moderne de Michel Gomez, c'est avec moi pour les qualifs. Baba qui n'est pas là, est forfait. C'est pour ça que j'y suis dans l'équipe.
Oui, mais d'accord, mais il y a d'autres matchs, non ?
Et quand il est sélectionné l'équipe de France avant, Baba qui n'est pas international, je crois. Hein.
Alors écoute, tu sais quoi ? On va vérifier, mais je t'accorde la réponse alors. Je t'accorde la bonne réponse. Parce que j'ai en fait, tu sais quoi,
en fait, je vais pas les vérifier, c'est ça.
Ça coïncide, non,
ça coïncide au niveau des timings et
ça coïncide au niveau des dates, je me suis dit qu'il avait forcément eu. Donc, je t'accorde le point. Mais on va vérifier quand même. Là, on va vérifier là. Là, on est en train de vérifier avec toute notre équipe d'investigation. Sacha, j'ai entraîné Boris Diaw en club. Michel Gomez, Claude Bergeot, les deux ou aucun des deux. Il est complètement largué, le pauvre Sacha.
Ah non, c'est terrible. Là, je suis au bout du rouleau.
Tu vois qui c'est, Michel Gomez, quand même, ou non?
Je vais dire non, je vais me faire insulter. C'est pas grave,
évidemment, il y avait un piège, Claude Bergeot,
non, c'est pas
Bordeaux,
réponse, non.
En 2011.
Non, c'est pas
de toute façon, je l'aurais pas eu, je vais pas te
non,
mentir.
Non, c'est-à-dire aucun des deux. Pour moi, je l'ai interprété comme ça.
T'inquiète.
C'est ça,
mais
c'est
alors, ça me va. Non, non, mais de toute façon, j'aurais lâché un blaze au pied.
C'est vrai que non. Vraiment. C'est vrai que non.
Non, c'est pas
non.
C'est pas Michel aucun Gomez des ou Claude Bergeot.
Michel
non.
Gomez. Donc, la réponse était Claude Bergeot, en tout cas à Bordeaux, pendant le lockout. Donc tu commences à prendre du retard. Hein. Et enfin, j'ai fait une question de trop ou quoi, non ? Ah non, parce qu'il en manque une pour Sif, c'est bon. J'ai été trois fois champion de France avec Pau, Fred.
Ça, c'est Michel Gomez.
Eh bien, c'est Claude Bergeot.
Il a été trois fois champion de France.
Michel Gomez, deux fois. Et Claude Bergeot, 98, 99 et 2001. Et enfin, Steve, j'ai été assistant d'Ettore Messina. Michel Gomez,
assistant d'Ettore Messina.
Les deux ou aucun des deux.
C'est pas Claude Bergeot, ça c'est sûr, donc je l'élimine. Michel Gomez, assistant d'Ettore Messina. Alors que Michel, il a coaché à l'étranger, mais je ne sais pas s'il est assistant d'Ettore Messina. Je vais dire Michel Gomez.
Aucun des deux, c'est sorti
de C'est sorti de son cerveau malade.
C'est sorti de mon cerveau malade. Donc, ça fait quand même... Ah, c'est serré, il y a 3 points pour Sacha, 4 points pour Fred et 5 points pour Steve. Et là, pour finir, la question multipoint. Là, vous allez être... Là, ça peut aller loin parce que normalement, vous avez révisé cette question. Malgré vous et sans le savoir. Je vais vous demander de me citer tour à tour un MVP de la Coupe du Monde de basket.
Il est même petit Maïkou.
Sachant que ce sont tous des joueurs très connus pour les 9 derniers. Donc il y a beaucoup, beaucoup de noms à aller chercher. Après, il y a des noms un peu plus obscurs, mais je pense que vous pouvez en avoir quelques-uns. C'est Sacha qui va démarrer.
Ricky Rubio.
Ricky Rubio 2019, c'est bon. Fred.
Mickey Irving.
Kyrie Irving 2014, c'est bon.
Ça m'a fait Steve. Plaisir, merci Sacha.
Je pourrais prendre un gros risque, mais je vais le garder pour la suite quand je vais être short stack, je vais dire Dirk Nowitzki.
Dirk Nowitzki en 2002, c'est bon Sacha.
J'ai très peur, j'ai tenté Pau Gasol.
Excellent. En 2006. C'est bon. À toi, Fred.
KD.
Ah, Kevin Durant en 2010, c'est bon. Voilà, vous avez fait les plus récents.
Je pense qu'en 98, il y a Dejan Bodiroga.
C'est Dejan Bodiroga en 98.
Tu m'as volé celui-là.
Bravo. Ensuite, nous allons passer à Sacha.
Ah, là.
Alors là, là, en 94, tu peux le trouver. Voilà, je te dis que ça. En 94, toi qui capte rien au basket européen, tu peux le trouver. Non, je plaisante. Toi qui es un spécialiste plutôt de la NBA, tu peux le trouver. En 94, réfléchis bien qui est la méga star en 94. Tu l'as, Steve?
94.
Ouais. Tu penses l'avoir, Fred? Tu penses l'avoir?
Coupe du monde.
Ouais.
Non, mais moi, laisse-moi réfléchir à autre chose. Je m'en fous. Le team Warriors, okay. C'est 94. Ouais, c'est
trouver de... Ah, Divac? Non.
Non, c'est pas Vlade Divac. Ah. Donc, et Vlade Divac n'a jamais été. Donc, tu passes la main. Tu termineras avec 5 points. Tu gagneras pas le quiz, Fred. Allez, Fred. Fred, il y en a. Franchement, quand je vais te dire les noms, tu vas te réfléchir, mobiliser tes neurones. Tu vas les trouver tous. Allez. Allez, Fredo. Allez, Fredo. Pense à ce qu'on a dit tout à l'heure.
Stojakovic.
C'était l'autre.
Non, c'était Petrovic. Décidément, avec les deux, là.
C'est moi qui t'ai mis le crabe dans la tête.
Ouais, c'est ça, t'as vu.
Donc, Steve, t'en as d'autres? Tu veux continuer ou pas?
T'as Tony gagné, Kukoc en 90,
Tony Kukoc en 90, c'est excellent.
Il y avait le Shaq.
Le Shaq en 94,
tu le sais, pourquoi tu le dis pas?
Pourquoi tu ne le dis pas?
Après. En fait, je pensais que c'était... J'ai confondu Stojakovic et Petrovic, vraiment.
Sabonis, c'est pas MVP de Coupe du Monde?
Non, pas Sabonis. Après, ça devient vraiment dur. Il y a un Panaméen, je ne sais pas si vous l'avez, en 82.
Hein, c'est qui?
Rolando Fraser.
Fraser?
Oh. Ouais.
Non, pas du tout.
Après les autres, il y a deux Yougoslaves. Dragan Kikčanović.
Kikčanović, oui.
Et Drazen Dalipagic.
Deux légendes.
Il y en a un dans la liste qui est terrible.
Je pense que en 70, tu aurais pu trouver... 2019, on l'a dit, c'est Ricky Rubio, il l'a dit.
Ah, Ricky Rubio, oui.
Tu aurais pu trouver, je pense, Sergueï Belov, toi.
Belov,
oui.
En 82, c'est Doc Rivers, le MVP.
Pardon?
En 82, Coupe du Monde, le MVP, c'est Doc Rivers. Pour les States.
Bah oui.
Je suis choqué. Voilà, je tiens à le dire.
J'ai pas, le problème, c'est que Pierrot l'a pas sur sa liste.
Non, bah ouais, je l'ai là. Fraser, Panama.
Ah bah non, c'est le meilleur scoreur de la compète, le MVP, c'est Doc Rivers, c'est écrit.
Ah bon? Non. Moi, j'ai les MVP du championnat de basket, quoi, sous les yeux, là. Bref.
Alors, notre équipe d'investigation a cherché, Michel Gomez n'a jamais coaché Boris Dio.
Alors, bravo, Siphon, et pour ma flemme, je serai plus. Voilà. Ivo Daneux, Vladimir Marquez, brésilien, Amaury Passos, brésilien aussi, ça c'est 50-60. Kirby Minter, année 1954, États-Unis, et Oscar Furlong pour l'Argentine, 1950.
Oscar Furlong?
Ouais.
C'est le frère de Jean-Marc?
À l'année prochaine, il y aura toujours
merci
les belles,
pour
les plus belles vannes de
Steve. Merci tout le monde pour cette saison. Reposez-vous bien. Ciao, ciao.
Bye. RMC Basket Time.